ils sont jeunes, fraîchement diplômés et débarquent dans l'univers impitoyable de la finance. Leur rêve, gagner de l'argent en intégrant Pierpont & Co, prestigieuse banque d'investissement à Londres. Encore faut-il réussir l'entretien d'embauche.
Il y avait deux piliers déterminants dans l'éducation que ma mère m'a donnée. Jésus-Christ et Margaret Thatcher.
Comment les définiriez-vous ?
Eh bien, nous devons à l'un des deux le fait d'être ici et l'autre était charpentier.
Pour moi, c'est ce qui se rapproche le plus d'une méritocratie et... Je veux qu'on me juge uniquement sur mon courage et mes compétences.
Et qu'on vous paie pour ça ?
Exact.
Bienvenue dans Sériland, Zoom sur Industrie et ses séries qui parlent fric, fonds d'investissement et dividendes. Sériland, c'est le podcast qui vous donne envie de regarder des séries de qualité, celles qui sont dans l'actualité, comme Antidisturbios ou Love and Anarchy, sur lesquelles nous reviendrons à la fin de cet épisode. Et puis, il y a les séries qui nous racontent l'actualité, qui parlent de notre société capitaliste en l'occurrence. Je m'appelle Eva et en 1981, avec mes parents, nous étions devant notre écran de télévision. C'était un samedi soir sur TF1 et mes yeux d'enfant découvraient les premières images de cette série. Impitoyable de Dallas, drame familial chez des gens riches, où le mot fric n'était plus un gros mot, mais bien un symbole de réussite. Avec mon équipe de Sérivore, Clémence Olivier, Margot Barallon et Patrick, notre voix, on a choisi de replonger dans les séries qui parlent d'argent, qui ont choisi d'ancrer leur récit dans le décor des salles de vente et des bureaux des fonds d'investissement. Succession, Billions, Devils, Band of Bank ou encore Exit. Avec une question récurrente, est-ce que le domaine de la finance est réellement le sujet de ces séries ou simplement un décor? Pour évoquer cette thématique, il nous fallait un expert, un sérivore, professeur de sciences politiques, auteur également de plusieurs articles sur le site TV Série que je vous recommande, mais aussi de livres comme House of Cards, le crime en politique, ou encore ce dernier qu'il a co-dirigé, Série politique, le pouvoir entre vérité et fiction. Emmanuel Taïeb est l'invité expert de cet épisode de Sériland.
Sériland, épisode 25.
Bonjour Emmanuel Taïeb.
Bonjour Eva Roque.
Bonjour Margot Barallon.
Bonjour.
Nous allons donc parler d'argent. Certains considèrent ce mot comme un gros mot, d'autres comme un symbole de réussite. OCS diffuse actuellement une nouvelle série Industrie, le quotidien de jeunes diplômés qui intègrent une grande banque d'investissement londonienne. Ils ont 6 mois pour s'imposer et décrocher un poste dans cet univers où les négociations sont brutales et les rapports de force violents. Emmanuel Taïeb, en une phrase, pourquoi regarder Industrie ?
On peut voir des gens jeunes qui sont effectivement intéressés, dans l'extrait que vous avez passé, par une nouvelle forme de méritocratie, qui n'ont pas de tabou avec l'argent, qui ont très envie de réussir, ils n'ont pas envie de devenir médecin, ils n'ont pas envie de devenir avocat. Ils pensent qu'il y a une revanche sociale qui peut être prise et donc il faut gagner de l'argent. Ce sera à la City de Londres.
Exactement. Margot Barallon, un argument pour la regarder, cette série ?
Eh bien, on avait parlé dans Sériland de la représentation des personnes racisées. À l'époque, l'industrie n'était pas encore sortie et c'est bien dommage parce que je pense que la série fait un énorme travail là-dessus. On voit que les salles de marché ont changé depuis Wall Street. C'était en 1987, le film. Et vraiment, avoir comme ça des personnages, je pense notamment à Harper, qui est l'héroïne, qui est afro-américaine, et son chef, qui lui est un homme asiatique, les voir avec leurs propres arcs narratifs comme ça, mais être si bien représenté, on sait qu'il y a beaucoup de travail d'écriture derrière, est un bon travail en l'occurrence.
Entièrement d'accord avec vous. Alors de mon côté, j'aime assez le côté réaliste de la série. Tout est envisagé de façon assez froide, assez clinique d'ailleurs. Les deux créateurs, Mickey Down et Conrad Kay, se sont d'ailleurs inspirés de leur propre expérience puisque tous les deux ont travaillé dans une banque de la City. Donc c'est un univers qui est assez froid, je dirais, mais qui tranche aussi avec les relations sociales que chaque personnage essaie de construire avec les autres, avec des personnages féminins, effectivement, de premier ordre. J'ai surtout bloqué sur l'actrice qui joue Harper, que je ne connaissais pas, Myala Herold. Voilà, une fille vraiment extraordinaire dans cette série. C'est Lena Dunham qui a réalisé le pilote, à qui on doit une autre série formidable, Girls. Et puis, ce que j'ai aimé aussi, c'est que derrière cette façade, et ça va être un peu l'objet de notre podcast, de cet épisode de Sériland, c'est que derrière cette façade, qui décrit le monde capitaliste, il y a d'autres sujets qui surgissent, notamment celui de la méritocratie, ce que vous disiez, Emmanuel. Au début de ce premier épisode, on va retrouver tous ces jeunes diplômés réunis dans un amphithéâtre, et voilà comment ils sont accueillis.
Dans 6 mois, on procédera à la réduction des effectifs. Il y aura une nouvelle réunion avec vous dans cet auditorium. Et chacun de vous expliquera pour quelles raisons on devrait vous embaucher à votre desk. Pierpoint est le plus grand établissement de services financiers du monde. Pour vous intégrer, vous devez vous comporter comme si c'était votre entreprise. Alors pensez comme un actionnaire, enrichissez vos clients, enrichissez-nous et enrichissez-vous également. Je veux que vous regardiez le gars ou la fille à côté de vous. Regardez-les bien. Vous vous croyez meilleur ? C'est peut-être le cas. Mais dans 6 mois, la moitié d'entre vous ne sera plus là.
Emmanuel Taïeb, vous êtes professeur à l'Institut d'études politiques. Est-ce que cette scène n'aurait pas pu se dérouler dans un tas d'autres universités, de grandes écoles ou de grandes entreprises?
Bien sûr, et elle aurait même pu se dérouler dans le monde politique. C'est la lutte des places, c'est qui va survivre, c'est évidemment extrêmement violent. Là, la série, au moins dans cet épisode, elle mérite de poser les choses très explicitement et très distinctement. Donc il n'y aura que quelques survivants, on va être dans une forme de darwinisme professionnel. Et comme il y a en face des jeunes gens qui écoutent ce discours et qui en veulent, qui ont les crocs, évidemment ça va leur parler. Et donc entre eux, ça va, on les suit aussi dans leur vie non professionnelle et on voit comment cette violence du travail, mais qui est accepté en tout cas au départ, va avoir des impacts permanents et des effets permanents sur leur vie personnelle.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire, c'est qu'en fait, ça permet de faire naître aussi, sur un plan scénaristique, tout de suite une espèce de tension. On sent qu'on va basculer dans le thriller. Alors, on va pas spoiler, mais la fin du premier épisode, qui en fait semble logique dans la psychologie des personnages, moi, m'a totalement bluffée. J'étais extrêmement surprise. Est-ce que ça a été votre cas?
Et on J'avais peut pas entendu dire. Parler ah, de cas de surmenage. On va le présenter comme ça, ouais. Si c'est à ça que vous pensiez, Eva.
Oui, oui.
Donc ça ne m'a pas surpris. Par contre, j'ai trouvé que c'était très bien filmé, très bien amené.
Mais c'est, Margot, c'est sans rien dire de ce qui se passe, c'est inspiré d'un fait divers qui s'est effectivement produit à la City de Londres, d'ailleurs.
Margot, comme dans la plupart des séries qui parlent d'argent, on va être honnête, il y a certains dialogues qui nous paraissent totalement abscons.
Alors oui, c'est souvent très très compliqué. Pensez à moi qui ai vu les 4 premiers épisodes sans sous-titres. C'était vraiment...
Alors là, vraiment félicitations, parce que moi, j'ai attendu en fait avec les sous-titres la version française parce que je n'y arrivais plus.
Je peux comprendre. Alors, dans cet extrait, l'extrait que je vais vous passer, il y a un dîner avec une cliente. C'est le premier dîner de notre petite Harper et elle essaie de la convaincre d'investir.
Et une option sur les US bonds 10 ans à 4%.
Le dernier rendement date d'avant ta naissance.
Ça date de fin 99.
Eh ben, autant dire que t'étais encore à la tétine.
Désolée, Nicole, les nouveaux n'interviennent pas d'habitude.
On s'en fout. Laisse-la terminer.
Avec le président qui torpille la réputation du pays au niveau international, je me dis, enfin, pour moi, la suite logique, c'est qu'à force de provocation, ça va se solder par un effondrement des titres.
À ce moment, le dollar est plus qu'en chute libre.
En effet, et je pense qu'on va faire un énorme sell-off. On est en train de se lancer dans une guerre froide souterraine avec tous nos partenaires commerciaux. Et la Chine est maître du jeu vu qu'elle détient leur dette publique. Donc si elle fait du dumping, on sera largement au-dessus des 4%. Si pour vous c'est clair que la maison brûle, ce serait l'occasion de le monétiser.
C'est vrai, on comprend rien, mais en même
et
temps...
Et encore, c'est pas le pire.
Et c'est pas le pire, c'est vrai. Mais finalement, user de ce jargon, c'est assez classique pour les fictions et dans plusieurs domaines, pas seulement dans celui de la finance.
Exactement, on en parlait hors micro avec Emmanuel Taïeb parce qu'on revenait sur l'entretien qu'Éric Benzekri nous avait accordé pour Baron Noir dans Sériland, que vous pouvez d'ailleurs réécouter. Et lui, il nous citait, il use en fait dans Baron Noir et du vocabulaire qui est récurrent dans le milieu des communicants politiques, avec le jargon qui s'impose d'ailleurs, mais il dit, mais en fait, c'est comme les médecins et les soignants dans Urgence. Il y a des pans entiers de la série qu'on ne comprend pas, mais c'est pas grave parce que ça ne change en rien le récit et puis la façon dont on s'accroche au personnage. Vous êtes d'accord, Emmanuel Taïeb?
Oui, les activités sont évidemment devenues très professionnalisées dans tous les champs d'activité, de métier. Donc il y a un jargon qui se développe, il y a un vocabulaire technique. Ça peut perdre le spectateur. En même temps, ça fait crédible. Et de toute façon, les séries s'organisent toujours pour, à un moment, faire un travail pédagogique. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on comprenne les enjeux de qui va acheter, qui va vendre, qui va gagner, qui va perdre. Sinon, le suspense n'est pas intéressant pour le spectateur. Donc il y a toujours ce petit moment pédagogique qui fait qu'on se raccroche au wagon, même si le vocabulaire peut nous avoir dépassé.
Et vous trouvez que c'est le cas dans l'industrie? On arrive à suivre?
Oui, on arrive à peu près à suivre et on voit à peu près les enjeux et puis on les suit aussi dans leur carrière débutante.
Ouais, et puis de toute façon, en fait, c'est ça qui est génial, je trouve, c'est d'arriver à faire monter une tension. Quand bien même on ne comprend pas les détails, on comprend bien qu'il y a un enjeu pour eux, en tout cas.
Exactement.
Et c'est ça qui fonctionne dans l'industrie.
C'est comme dans Urgence, vous sentez quand le type va mourir ou pas, hein, d'ailleurs.
Exactement. Voilà.
Dernier extrait d'industrie, on va retrouver une manager qui est face à un des jeunes traders et écoutez bien ce qu'elle lui demande.
Écoute, personne ne remet en cause son dynamisme, mais s'il te plaît, rends-moi service. Viens plus tard le matin, pars plus tôt le soir, décompresse. C'est moi qui te supervise, je veux pas que ça me retombe dessus. T'es allé voir le thérapeute?
Non.
T'as peut-être l'impression que c'est pas nécessaire, mais dis-toi une chose, moi j'ai besoin que tu le fasses, c'est aussi une question d'image. Au final, c'était pas une perte de temps. Ça m'a permis de prendre de la hauteur.
Qu'est-ce que vous en pensez de cet extrait, Emmanuel Taïeb ?
Elle sauve sa tête, ça laisse penser
qu'en
tant que manager, ça laisse penser qu'elle y est allée elle-même voir le psy, que ça l'a aidée et qu'elle doit gérer son équipe. Parce que s'il y a le moindre problème, par exemple de surmenage ou de trop de travail ou de gens qui ne quittent plus littéralement l'entreprise, ça peut lui retomber dessus en tant que manager. Et donc, ça peut, si ça affecte son service, ça affecte sa propre carrière.
Est-ce que vous avez trouvé que Industrie, la série, était caricaturale ? Parce qu'il est beaucoup question de drogue, d'alcool, de médoc pour tenir, de sexe aussi.
C'est difficile à dire quand on n'est pas dans le milieu. Moi, je l'ai trouvé plausible. Il y a peut-être une insistance sur les à-côtés, sur la vie londonienne, qui est effectivement, visiblement, là, présentée comme tout le monde prend de la cocaïne, voire plus, tout le monde prend de la drogue, tout le monde va coucher de tous les côtés, tout le monde découche, si j'ose dire aussi, on sort tout le temps, on sort très tard. C'est vrai aussi que ce sont des gens jeunes, donc il y a peut-être aussi cet élément-là. Moi, ça m'a paru plausible, ça force peut-être un peu le trait.
Margot, qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, je trouve que c'est vraiment le mécanisme de fascination-répulsion qui joue à plein et... Pour avoir lu des traders qui parlaient de la série, eux estiment que c'est peut-être un peu forcé, mais enfin, c'est quand même très, très réaliste dans l'ensemble.
Alors, c'est ce qu'on est amené à penser, parce que Industrie, qui, je vous le rappelle, est à voir sur OCRS, n'est pas la seule série à mettre en scène ce monde des hautes finances. Les loups ne sont pas qu'à Wall Street ou à Londres, ils sont aussi à Oslo ou à Francfort. On va y revenir. Et effectivement, ce milieu de la drogue, cette addiction... une forme d'addiction au sexe, etc., on va le retrouver dans toutes les séries que nous allons aborder. Je vous propose, pour commencer, de rester dans le milieu de la finance avec une autre série disponible sur OCS, Devils, une saison, 10 épisodes, pour raconter le destin de Massimo Ruggiero. Alors, c'est un trader assez brillant, il travaille dans une banque américaine, encore une fois à Londres, il se prépare à devenir vice-président d'établissement, mais le poste va lui échapper. Et donc s'ensuit un face-à-face avec son patron, qui est aussi son mentor, qui est incarné par Patrick Dempsey, une lutte de pouvoir et ce qu'il faut de manipulation et de trahison. Petit extrait de l'épisode 2, Massimo se retrouve face à la femme d'un des dirigeants.
J'imagine que vous n'avez pas d'enfant, monsieur Ruggiero.
Non.
N'en faites jamais. Ce business détruit des familles. Il vous vole votre âme et votre vie. Je suis censée dire quoi à nos enfants ? Je vais devoir leur expliquer qu'ils vont grandir sans leur père, à cause d'une putain de banque.
J'ai choisi cet extrait parce qu'il évoque la violence de ce milieu exercée sur ces hommes qui participent à cet univers, mais aussi sur les proches, à quel point en fait, le désir de pouvoir détruit tout. Et c'est ça qui m'intéressait, Emmanuel Taïeb, en vous invitant dans cet épisode de Sériland. Au fond, ces séries qui parlent d'argent, elles évoquent avant tout le pouvoir et donc avant tout le politique.
Absolument. Moi, c'est pour ça que ça m'a aussi beaucoup intéressé. Dans le pitch que vous avez donné au début de la série, on retrouve des éléments de House of Cards sur lequel moi j'ai travaillé. Sauf que dans House of Cards, c'est Underwood, le personnage principal qui est diabolique. Et là, ça va pas être Massimo Ruggiero, ça va être son patron. En tout cas, il a des doutes et il y a l'idée qu'ils ont tous passé un pacte avec le diable et que ce nouveau pacte faustien, c'est un pacte avec l'argent et que l'argent va les dévorer. Donc, on va pas dévoiler de choses, mais voilà, ça dévore tout le monde très violemment. Et il y a en permanence des luttes de pouvoir, des luttes d'influence, des vengeances. Là, effectivement, Massimo voit un poste, Ruggiero voit un poste de vice-président lui échapper. Ça va lancer quelque chose, ça va détraquer la machine et ça va mettre au jour effectivement toute la dimension diabolique de ce fonctionnement-là, mais qui n'est pas que la finance, qui est aussi les relations internationales. Et dans Devils, il y a énormément d'allusions à la Libye de Kadhafi, à DSK qui essaie de réformer le système.
Les génériques sont formidables.
Les génériques incluent des éléments.
Aussi,
la Grèce, absolument,
ouais.
Sachant que la série se passe en 2011. Donc, on est juste 3 ans après la crise financière.
Ouais.
Donc, il y a vraiment cet ancrage dans l'actualité en disant l'argent a probablement détraqué des fonctionnements politiques très vastes.
Derrière cette problématique du pouvoir, en fait, l'argent, c'est quoi ? Ça simplement... un ressort scénaristique qui fait que ça exacerbe un peu l'avidité des personnages, vous pensez ?
Oui, ça les anime, c'est quelque chose qu'ils ont cherché, on ne sait pas très bien pourquoi, parce qu'à un moment ils ont été extrêmement matérialistes, et puis ils vont se poser des questions, parce qu'ils vont se rendre compte que l'argent ne rend pas nécessairement heureux, qu'ils ont énormément de problèmes, qu'ils sont pris dans des choses qui les dépassent, et là en l'occurrence dans Devils, on bascule assez vite dans le thriller, et donc l'argent leur facilite la vie, parce qu'ils roulent dans des belles voitures, ils ont des maisons absolument incroyables, avec des vues incroyables, mais en réalité, il y a d'autres problèmes qui se posent à eux, leurs vies personnelles sont assez loqueteuses et extrêmement compliquées. Donc on voit bien que ce sont des gens qui ont perdu quelque chose au passage. Ils se sont déconnectés de quelque chose.
C'est vrai que ça permet d'avoir des séries avec de très beaux appartements et de très belles voitures.
Mais justement, je trouve ça intéressant dans Industrie, c'est un peu différent Et c'est ça qui m'a intéressée, c'est qu'en fait, on s'aperçoit qu'on a quand même une génération de jeunes, donc très jeunes, c'est vraiment la génération Z, qui en fait estime vraiment que la finance, c'est le dernier bastion de la méritocratie, qu'avoir de l'argent, c'est cool. Et les jeunes, généralement, dans la fiction, on les voit beaucoup progressistes, militer pour le climat, l'égalité, et là, pas du tout. Et d'ailleurs, il y a des dialogues où ils parlent du capitalisme et ils assument complètement qu'ils ne vont pas rejeter ce système-là et qu'ils s'inscrivent vraiment dedans. Et ils sont conscients finalement qu'ils ne sont pas très en phase avec leur époque et avec leur propre génération.
Tout en l'assumant.
Et ils l'assument. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant dans l'industrie d'avoir... On s'attend à ce que ça se détraque et en fait, ça ne détraque pas trop.
Ouais. Mais en fait, c'est aussi une récurrence, c'est que depuis Dallas... on a vu une vision assez décomplexée vis-à-vis de l'argent. Et c'est ça qui était intéressant aussi de regarder dans toutes ces séries, c'est que, le fric, pourquoi pas. Alors, évidemment, après les comportements et la vulgarité des gens qui ont de l'argent, on sent que c'est exacerbé par l'argent, mais on sent quand même qu'il y a un fond psychologique qui était déjà présent, quoi.
Ils sont tous très détraqués, alors pas forcément dans Industry, mais dans d'autres séries dont on va parler. C'est très dysfonctionnel, ça va très mal.
Oui, et alors, il y a un truc qui m'a étonnée, c'est que dans toutes ces séries, avec la finance en toile de fond, il y a une odeur de mort, qui va bien au-delà du côté thriller. Hein. Je veux dire, ça sent la mort. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Il y a un côté rance, il y a un côté froid, c'est accentué par les bureaux qui sont... Alors, c'est le festival de l'open space pré-Covid.
Hein. C'est vrai.
Ils sont tous là-dedans. C'est froid parce qu'il y a des ordinateurs, c'est froid parce qu'ils sont dans des buildings de verre, c'est froid parce qu'il y a une partie des personnages qui sont dans des formes de vanité. Donc, c'est pas des gens très cultivés, c'est pas des gens qui se posent, c'est pas des gens qui vont faire un retour sur eux-mêmes. Donc, leurs vies sont un peu vaines. On accumule beaucoup d'argent. Une fois qu'on est monté au sommet, on ne peut plus que redescendre. Donc, ils sont dans une quête permanente, sans faire de métaphysique. Tant mieux peut-être pour certains d'entre eux. Donc, voilà, le fait que ça aille mal accentue cette dimension. Je pense que c'est lié vraiment à une forme de vanité.
Transition toute trouvée, Emmanuel Taïeb, parce qu'en parlant de famille et de vanité, il faut qu'on évoque la série que nous adorons dans Sériland, Succession, qui est à voir également sur OCS. Il y a déjà 2 saisons de disponibles. Margot, nous sommes d'accord, c'est la série à voir.
Oui, enfin, pour moi, vraiment, objectivement, c'est une des meilleures séries récentes, si ce n'est la meilleure. Alors, l'histoire, brièvement, je rappelle, c'est celle de Logan Roy, qui est une sorte d'alter ego fictif de Murdoch, donc grand mania des médias notamment. Et il s'apprête, au début de l'histoire, à passer la main à l'un de ses enfants, il en a 4. Et en fait, il change d'avis. Il change d'avis, sauf que, évidemment, ça déclenche une vraie guerre en famille. Sa progéniture essaie de le renverser, sa femme veut la part de gâteau, lui, il s'accroche. Et tout ce petit monde est extrêmement dysfonctionnel, c'est vrai. Alors, il passe son temps, Logan Roy, à essayer d'acheter des médias, tout le temps. Et ses fils tentent vainement, à un moment, de lui expliquer que c'est pas trop possible, parce qu'il y a quand même des lois antitrust contre ce genre d'opérations financières.
Bon, alors vas-y, on t'écoute.
Ce n'est pas nécessaire, messieurs. Franck a insisté pour que vous nous rejoigniez, mais... Bon, après tout, c'est pas plus mal que vous connaissiez ma position sur certaines choses.
Nous avons l'opportunité de consolider l'entreprise grâce à des acquisitions qui peuvent être avantageuses.
Il s'agit plus précisément du rachat de chaînes locales.
Des chaînes locales.
Plus personne ne regarde la télé aujourd'hui.
Faux. C'est le média que les gens utilisent le plus pour s'informer. Et pour ça, les chaînes locales marchent mieux que les autres.
Si tu le dis, mais pas dans la vraie vie.
Je comprends qu'à court terme, ça puisse rapporter gros, mais... Mais tu crois que pour Waystar... Ça vaut vraiment le coup.
Il existe une nouvelle théorie d'entreprise à la mode qui s'appelle « Gagne plus que tu ne dépenses et tu baiseras tout le monde ».
Papa, s'il te plaît.
Et pourquoi on ferait pas de l'info à tous les niveaux ?
Pourquoi on ferait pas de l'info à tous les niveaux ?
Oui.
Je vais te le dire, Kim Jong, papa, parce que ça marche pas comme ça aux États-Unis.
En fait, tu adores dire aux gens ce qu'ils doivent penser, pas vrai ?
Me fais pas chier. Pourquoi on nous regarde ? Parce qu'on vend pas de la merde aux gens. Non, pas question de leur bourrer le crâne de patriotisme, de monospace Volvo ou de tolérance LGBT à la con.
D'un point de vue administratif, c'est horrible. Entre la justice, le FCC et les lois antitrust, on serait emmerdés pendant des années.
Non, la télé, ça devient n'importe quoi. Il faut que ça change.
Alors, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on voit là que le pouvoir économique n'est jamais qu'un pouvoir économique. C'est aussi le pouvoir médiatique, donc politique. Et puis, le pouvoir intime au sein d'une famille, il leur parle quand même extrêmement mal.
Et alors, je dois dire que la version française est plutôt réussie. Je le dis rarement, mais c'est assez bien traduit et vraiment, c'est assez réussi. Emmanuel Taïeb, là encore, on sent bien que l'argent, c'est quasiment qu'un décor et que L'objectif de la série, c'est vraiment de raconter ce que disait Margot, les dysfonctionnements de la famille.
Ah, l'extrait est vraiment extraordinaire de ce point de vue-là qu'a choisi Margot. C'est une famille complètement dysfonctionnelle. C'est Dallas, effectivement, c'est The Crown, c'est Game of Thrones, parce qu'il y avait effectivement un enjeu de conquête du pouvoir. Il faut essayer de dégager le patriarche. Ça montre effectivement qu'il y a un problème de succession. C'est pour ça que la série s'appelle comme ça. C'est-à-dire que le patriarche va s'accrocher désespérément en étant malin, mais un peu old school, et que les jeunes, ses enfants, ne sont pas très bons, mais veulent aller trop vite. Donc, il y a effectivement, on travaille cette transition qui n'arrive pas à se faire et qui est une transition interminable. Donc là, on n'arrive pas à occuper le trône de Logan Roy comme on n'arrive pas à occuper le trône de fer. Et ils sont complètement allumés. On peut dire un mot quand même des showrunners.
Bien sûr.
Alors, le showrunner, c'est Jesse Armstrong. Les producteurs exécutifs, c'est Adam McKay qui avait fait The Big Short. Voilà, donc il s'était déjà intéressé à la finance, et puis Will Ferrell. C'est des gens qui viennent quand même, alors Adam McKay c'est un peu différent, mais Jesse Armstrong il vient de la comédie. Il avait été showrunner de The Thick of It et In the Loop, qui étaient des séries humoristiques britanniques sur le pouvoir. Et donc on sent quand même la dimension un peu grotesque, un peu forcée, mais dans le bon sens du terme, un peu satirique, un peu grimaçante et grinçante de Succession. Et en fait, c'est une série qui parle beaucoup de la famille, beaucoup des rapports de famille, où ça va vanner à toute vitesse, où ça va insulter à toute vitesse. En fait, ça ne parle pas beaucoup d'argent. Et quand on regarde la manière dont les épisodes sont construits, c'est un petit peu... Il y a quelques scènes qui sont dans le travail. Et puis, généralement, les deux derniers tiers des épisodes, c'est des moments de réunion familiale ou de gala où on va envoyer du lourd avec une assez grande grossièreté. Donc, je trouvais que l'extrait était intéressant aussi. On sent c'est que malgré la richesse, on se demande d'où viennent ces gens, est-ce que vraiment ils ont compris ce que voulait dire leur position sociale. Ils parlent très mal.
Mais alors, moi, je trouve que ça a une vertu, c'est qu'on peut s'identifier au personnage. Non pas que je sois une fille très vulgaire dans la vie, mais comme c'était déjà le cas avec Dallas, riche ou pas, les disputes familiales, les addictions, les autres épreuves de la vie, bah en fait, ça rythme aussi nos existences. Donc ça permet aussi ce pouvoir-là. Vous savez que c'est extrêmement important dans les séries de pouvoir s'identifier au personnage. Et là, ça fonctionne grâce à ça.
Oui, ça fonctionne parce qu'on a tous une famille et on a tous une famille plus ou moins fonctionnelle, plus
Dieu
ou
merci,
moins dysfonctionnelle.
Pas aussi dysfonctionnelle
voilà. Non, heureusement non. Et puis on a moins d'argent, donc on a moins ces problèmes-là. Non, effectivement, on s'identifie parce qu'il y a des personnages qui sont assez typiques, stéréotypiques, plus ou moins bien écrits, mais où il y a effectivement le frère un peu fou, celui qui est insécure, la belle-mère castratrice. On peut reconnaître plein de choses.
Alors, votre personnage préféré dans la série Succession, Emmanuel Taïeb.
Le problème, c'est que j'aime bien Kendall, moi, parce que je trouve donc c'est le fils qui galère un peu, parce qu'il est pas très très bon, mais je trouve qu'il se bat bien, et c'est le seul qui essaie de reprendre vraiment au début l'entreprise familiale sans y arriver. Donc on a beaucoup de peine pour lui.
Margot, votre personnage préféré?
Moi, j'adore cette question. Je pourrais débattre pendant des heures sur quel est votre enfant préféré dans Succession, et moi, je suis Team Shiv. Moi, j'adore Shiv. Alors, c'est la seule fille. Tout le monde m'oppose qu'elle est mariée avec un mec débile. Et c'est vrai, il s'appelle Tom, son mari. Il est affreux.
Il est
bête, en fait, en plus d'être complètement vulgaire. Mais c'est très bien expliqué. À un moment, il y a son père qui dit à Shiv, t'as tellement pas confiance en toi que t'as épousé un mec bien trop nul pour toi. Et pour moi, ça explique plein de choses. Donc, j'adore ce personnage. Je suis Team Shiv.
Voilà. Alors, je suis assez d'accord. C'est compliqué de dire qui on préfère parce qu'ils sont quand même tous fous. Hein. Donc, ils sont tous très attachants et très attachants. Voilà. Mais alors, moi, j'ai une... je sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi, mais je peux pas vous le dire. J'ai un petit coup de cœur pour Roman, qui est donc le plus jeune et qui est quand même vraiment, vraiment pas bien dans sa tête. Voilà. Et qui, en plus, n'a aucune vision des affaires. Enfin, il est vraiment très nul, hein, mais
et
je sais
pas.
Et
il est barré.
Et il est barré. Alors, figurez-vous, en parlant de Succession, notre sérivore Clémence Olivier, elle a déniché une histoire à propos de cette formidable série. Écoutez.
Clémence Olivier, agent coulisses de Sériland.
Succession, c'est une série qui m'a bluffée. La mise en scène, le jeu d'acteur sont soignés. Et les dialogues millimétrés. Enfin, c'est ce que je pensais. Car les sorties des personnages cinglantes, percutantes, réalistes, n'ont en fait pas toutes été écrites. Certains dialogues de la série sont même totalement improvisés. Comme ce dîner pour l'anniversaire de Logan Roy, le patriarche. Ça se passe dans la première saison.
La journée était vraiment réussie. C'était génial, merci.
Merci, c'est gentil.
Je suis quand même réservé pour le dessert.
Quel muscu.
C'est toujours un régal.
T'habites pas en ville ?
Je suis ravie qu'il
s'est fermé. Merci, c'était trop.
Tu mènes une vie assez
chouette,
tranquille.
Mais ta double voix va nous baiser.
Tu sais quoi ?
Ça ira.
On se croit dans un dîner de famille, non ? Et ce recours à l'improvisation, on le doit à un homme, l'un des chefs d'orchestre de cette série, Adam McKay. C'est lui qui a réalisé le premier épisode de Succession. Il est aussi l'un des producteurs de la série imaginée par Jesse Armstrong. Et lui, son registre de prédilection, c'est la comédie. Il a étudié l'improvisation et écrit pendant des années pour le Saturday Night Live, une émission d'humour américaine. Alors quand il dirige les acteurs et les actrices, McKay cherche l'aspérité, il veut créer le moment que l'on n'attendait pas, que ce soit dans un sketch à la télé ou dans un épisode de Succession. Et pour ça, sa technique, c'est donc de pousser les comédiens et les comédiennes à improviser. Mais voilà, on ne dirige pas Brian Cox qui joue Logan Roy comme on dirige un acteur du SNL rodé à la comédie. En fait, les comédiens de Succession ont pour la plupart une formation classique. Ils ont eu l'habitude de suivre à la lettre leurs répliques. Alors quand McKay leur demande d'improviser, ils sont d'abord décontenancés. Certains refusent même de se prêter au jeu. C'est le cas de Kieran Culkin. Il joue Roman, le plus jeune des frères dans la série. Dans le magazine Vulture, il confie avoir été terrifié à l'idée d'improviser. Il a même demandé au réalisateur d'en être dispensé. Sans succès, bien sûr. Mais le réalisateur ne l'a pas brusqué pour autant. Il l'a pris par la main. Il l'a encouragé. Il a continué, prise après prise, à lui lancer des répliques dont l'acteur devait se saisir à la volée. Et miracle, Culkin a fini par adorer. Comme l'ensemble du casting, d'ailleurs. À l'écran, ces moments d'improvisation s'intercalent parfaitement avec les dialogues plus écrits. Ils sont impossibles à déceler. C'est pourtant de l'impro quand Roman s'offusque de voir un sénateur démocrate invité au mariage de sa sœur et lâche une obscénité. C'est dans la première saison.
Est-ce que votre père va arrêter de salir la voix de notre belle république ?
Vous avez un ordinateur ? Vous avez pas suivi ou quoi ? On est les gentils maintenant. Interviens, si tu veux. N'hésite pas. Hein. Chief ? Je veux dire... Ton pote est en train de cracher sur notre boîte.
Oh non, Roman, on n'aborde pas le sujet. Ce serait un conflit d'intérêts.
Oh, le joli mensonge. Oh, parce que toi, tu mens tout le temps, c'est vrai. Je suis impatient de te voir le faire demain à l'église. Voilà. Ses mains ne vont pas se baiser toutes seules, donc... Ravi de vous avoir rencontré, sénateur.
Quand j'entends fuser ses répliques, je me dis que les acteurs sont vraiment hyper doués, mais aussi que cette façon de travailler a apporté beaucoup à la série. Après tout, c'est cette spontanéité qui rend la série réaliste, qui lui donne aussi un autre rythme, à tel point qu'on se croirait presque parfois dans un documentaire sur les Murdoch ou sur l'une des riches familles dont Jesse Armstrong s'est inspiré. Succession, c'est une série en 2 saisons, bientôt 3. Il y a 20 épisodes disponibles sur la plateforme OCS Go.
Effectivement, la saison 3 de Succession est attendue, très attendue, on espère peut-être début 2021. Je voulais qu'on passe à une autre série que je vous conseille aussi, qui est à voir sur MyCanal, qui s'appelle Billions. 5 saisons pour découvrir un duel entre 2 hommes. Il y a un milliardaire d'un côté, Bobby Axelrod, qui est incarné avec brio par Damian Lewis, face à un procureur, Chuck Rod, qui est joué par le génial Paul Giamatti. Petit aperçu de leur relation quand le procureur déconseille à l'homme d'affaires d'acquérir une demeure hors de prix.
Lâchez l'affaire.
Je devrais. Mais quand on est bourré de pognon, on dépend de personne. Et on peut dire « va te faire foutre ».
Vous êtes quelqu'un d'intelligent. Donc vous savez que lorsque j'engage une action en justice, vous n'avez pas affaire à un comté ou à un État. Les États-Unis sont contre vous. Ne me provoquez pas.
Oh, mais je sais très bien à qui j'ai affaire. Et je sais que vous êtes extrêmement fier de votre réputation. Vous ne pouvez pas vous permettre une défaite.
Vous savez ce qu'on dit au baseball? Les supporters font virer les entraîneurs. Les dirigeants ne font que leur annoncer la mauvaise nouvelle. Vous êtes le seul gestionnaire de gros capitaux qui n'a pas de presse. Mais c'est parce que vous avez géré le 11 septembre de façon opportuniste.
Allez vous faire foutre. Je n'ai jamais donné une seule conférence de presse. Une seule interview. J'ai perdu la totalité de mes amis ce jour-là.
Et depuis, vous vous en êtes fait des nouveaux.
Emmanuel Taïeb, quand on disait que ces séries parlaient de politique et de pouvoir, on y est vraiment avec Billions, parce que ce sont les intérêts privés d'un homme face à l'État, en fait, qui est incarné par le procureur.
Et l'État qui surveille parce qu'on pense qu'il y a des manigances ou qu'il y a, voilà, qu'il y a un problème, il y a des fraudes, et donc il va y avoir un jeu d'influence extrêmement fort entre les deux. Donc on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure sur la question politique, avec là, effectivement, même une action de justice ou une tentative d'action de justice qui renvoie à de la question politique, sachant que le procureur lui-même, donc Chuck Rhodes, rêve d'une carrière politique. Donc ils ont tous des enjeux et ils ont tous ce qu'on appelle des agendas politiques, c'est-à-dire qu'ils ont tous des ambitions, soit de pouvoir, soit d'argent, soit politique. Et donc, évidemment, ça bloque un peu les marges de manœuvre. C'est une série très intéressante, Billions, sur cette capacité à faire des coups. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va jouer comme coup? Qu'est-ce qu'on a comme levier? Comment est-ce qu'on peut embêter l'autre? Et ça peut passer partout. On va influer sur un conseil d'administration, on va dégager la maîtresse du père du procureur. Bon, donc il se passe plein de choses. Ils sont très, très, très imaginatifs. Donc voilà, ça donne plein d'idées pour ceux qui ont envie d'avoir des leviers. Mais il y a aussi cette idée-là. Voilà, c'est aussi la lutte des places. Guide, on peut lire ces séries-là comme un mode d'emploi. Il y a un élément intéressant quand même sur cette série-là, Billions, c'est qu'il donne beaucoup de chiffres. Alors les autres séries sont un peu vague, un peu vasouillarde sur les sommes. Ouais. Là, on donne vraiment, un avocat peut prendre 1 000 euros de l'heure, on peut être payé 1 400 000 dollars pour une année, on peut acheter une villa à 63 millions de dollars. Donc voilà, on a les vrais chiffres, ça donne des ordres de grandeur, c'est vertigineux, mais ça donne aussi une certaine idée du capitalisme financier.
On est bien d'accord. Alors moi, j'aime beaucoup cette série qui foisonne de personnages, qui la rend aussi intéressante, dont une, qui arrive en saison 2, qui s'appelle Taylor Mason. C'est la jeune stagiaire analyste qui va se révéler redoutable et dangereuse pour Axelrod, le patron. Elle est incarnée par Asia Kate Dylon, crâne rasé, un look très androgyne et ouvertement non-binaire. Son personnage l'est également. C'est un personnage extrêmement intéressant parce que ça va donner du relief, moi, je trouve, à cette série qui est à voir sur MyCanal. 5 saisons sont disponibles. Emmanuel Taïeb, je crois que vous avez été agréablement surpris aussi par une série européenne diffusée sur Arte qui est disponible sur Netflix, Bad Banks.
Bad Banks, c'est une série, je crois que c'est franco-luxembourgeois, en tout cas c'est produit par Arte et par la ZDF. Oui, effectivement, bonne surprise, parce que c'est vraiment une série qui explore à fond la question de la finance, sans trop surcharger avec des questions de thriller ou d'assassinat. Donc on suit vraiment, là les coûts qui sont joués sont vraiment des coûts financiers. Donc comment on fait pour acheter, comment on monte un projet, comment une banque peut financer un beau projet à Leipzig. Ça ne se passe pas à la City, ça se passe effectivement à Francfort. Ça parle allemand, ça parle un peu français, ça parle anglais. Donc c'est une série qui m'a paru très européenne dans le métissage des langues et dans le passage d'une langue à l'autre. Les héros sont plutôt attachants. On retrouve des thématiques qu'on a déjà évoquées. Ils sont obligés de se débattre, ils sont jeunes, ils se font avoir, on se fait virer de manière arbitraire par le patron. C'est des gens qui sacrifient beaucoup de choses à la finance. Mais je l'ai trouvé plausible là aussi, assez réaliste sur les métiers de la finance, sans dériver vers autre chose.
Avec une héroïne dans le rôle principal, encore une femme, ce qui était plutôt rare jusqu'à présent. Moi, je la trouve exigeante, elle est complexe, mais c'est vrai qu'elle a un truc très intéressant sur les mécaniques financières. Il y a 2 saisons donc disponibles sur Netflix. Au passage, je dois vous dire que je n'ai pas trouvé de série française réellement avec la finance en guise de décor. Quand même, il y en a une qui m'est revenue, c'est Dérapage, qui était diffusée récemment sur Arte également, avec Éric Cantona dans le rôle principal, où il joue un DRH qui est chargé d'organiser une fausse prise d'otage auprès des actionnaires de l'entreprise pour tester un peu leur fidélité à leur société. Moi, j'avais adoré cette série qui est une histoire vraie au départ et qui avait donné lieu à un roman de Pierre Lemaitre. Et donc, c'est ce roman de Pierre Lemaitre qui a été adapté pour Arte. Vous pouvez toujours voir la série Dérapage, c'est sur Arte et il me semble que c'est aussi sur Netflix.
Ouais.
Voilà, exactement. Et puis pour finir ce tour d'horizon des séries sur la finance, un petit mot sur une série que j'ai découverte sur Salto qui s'appelle Exit. C'est une série norvégienne. Je trouvais que ça faisait un peu plus exotique que la City de Londres et New York. Série norvégienne donc qui nous propulse à Oslo auprès de 4 copains. Alors ils sont tous milliardaires, c'est des traders trentenaires qui tentent d'échapper à leur quotidien familial. Et alors pour ça, tout est bon, Emmanuel et Margot, vous m'aurez compris, de l'alcool, de la drogue, beaucoup de drogue et du sexe. C'est une série au cours de laquelle les personnages répondent à une sorte d'interview.
Ce business, c'est pas pour les faibles. C'est vrai, c'est rude, je te le cache pas. On est peu à pouvoir tenir la cadence. Mais il ne faut jamais sous-estimer, si tu veux survivre, le capital, la ténacité et les complexes d'infériorité. C'est excitant.
Tout est dit, hein. On utilise l'autre et ses complexes pour gagner de l'argent. Il n'y a pas de dialogue abscon, en l'occurrence. Mais 4 personnages qui sont tout à fait détestables. Ce sont un peu l'archétype des nouveaux riches, en fait, hein. Milliardaires, très vulgaires. La série, elle est intéressante parce qu'elle repose sur les témoignages réels de 4 courtiers d'Oslo. Et elle reflète ce que j'aime assez. Elle reflète une sorte d'oppression, de malaise, une atmosphère suffocante qui, au fond, me semble être récurrente de toutes les séries dont nous venons de parler quand il s'agit d'argent. Emmanuel ?
Oui, c'est ces séries qui font un peu peur. Elles sont un peu étouffantes, probablement, parce qu'il n'y a pas d'échappatoire, parce que, on l'a dit, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup d'ambition. Moi, je les vois aussi comme des séries qui reflètent un nouveau Far West. Donc, la finance, c'est vraiment le Far West, au sens où il y a des duels, c'est la lutte pour la survie, chacun pour soi. Il n'y a pas de shérif, c'est compliqué. Voilà, il y a un shérif, là, dans Billions, avec Chuck Rhodes, mais qui a du mal à travailler. Donc, il n'y a pas d'enquête. Donc, il y a une forme de liberté absolue, donc d'arbitraire absolu. Et c'est des séries où effectivement c'est chacun pour soi, tout le monde manipule tout le monde, il y a du hacking, il y a de l'espionnage, on n'en avait pas encore parlé, mais on va fouiller les ordinateurs des autres, on va envoyer des faux messages depuis leur téléphone, donc il se passe plein de choses. Et alors effectivement, le Far West, c'est un peu dangereux et l'espérance de vie n'y est pas très longue.
Exactement. Et bien alors Exit, il faut que vous regardiez Exit, ça va vous plaire, c'est sur Salto, c'est une saison, c'est assez court, les épisodes font une trentaine de minutes chacun, c'est pas mal, c'est très rythmé. Voilà, pour terminer cet épisode de Série Land, je vous propose de quitter cet univers de la finance pour se pencher sur deux autres séries qui font l'actu, dont vous allez de toute évidence entendre parler et qui sont nos coups de cœur du moment. Emmanuel Taïeb, vous allez nous faire partager également votre passion pour une série, mais on va commencer avec Margot pour la série événement à découvrir sur Canal+.
Oui, alors c'est vraiment un de mes coups de cœur de cet automne, série espagnole, donc sur MyCanal et diffusée à la télé sur Polar+, et ça s'appelle Antidisturbios. Et Antidisturbios en VO, ça désigne les brigades anti-émeutes, donc effectivement, on peut difficilement faire plus dans l'actu. L'histoire, ça commence avec une de ces unités qui est appelée pour expulser les gens d'un appartement, sauf qu'on est en plein mois d'août, ils sont en sous-effectif, et quand ils arrivent, il y a 30 personnes qui font un sit-in pour empêcher l'opération. Très vite, le chef de la compagnie se rend compte que ça va être compliqué, il essaie d'avoir des renforts, ça fonctionne pas, on lui dit d'y aller quand même, il y va, et forcément, ça se passe mal.
Oh merde! Huma 93 à H50. Il nous faut d'urgence une équipe du SAMU 7 rue Del Olivo. Les téléphones. Un civil est tombé du premier étage.
Il est mort ?
Oh non,
putain. Est-ce qu'il est mort ?
Reculez, s'il vous plaît.
Il est tombé, vous avez vu ?
Ne le touche pas ! Ne le touche pas !
Hein ? Faites reculer ces gens.
Reculez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va passer ? Madame, venez là, s'il vous plaît.
Quoi ? J'ai rien fait.
Donnez-moi ce téléphone. Reculez !
Merde ! Il est vivant ?
Ouais.
Il s'est passé quoi ?
J'en sais rien, il est tombé.
Il est tombé comment ?
Je sais pas.
Comment tu sais pas, fichier ?
C'est mon téléphone, vous avez pas le droit, c'est illégal. Qu'est-ce que vous faites ? Vous avez pas le droit de faire ça !
Donc le thème des images qu'on efface, de la bavure, évidemment ça rappelle l'actualité de ces dernières semaines. Alors je ne résiste pas à l'envie de vous repasser un bout de la scène en version originale pour que vous puissiez saisir la mélodie des dialogues en espagnol.
H50 para Puma 93, necesitamos un SAMU en la calle del Olivo número 7.
Móvil.
Tenemos un precipitado desde el primer piso.
Alors cette scène d'évacuation, elle est filmée quasiment en temps réel, ça dure 20 minutes, caméra à l'épaule, souvent subjective, on voit tout, et pourtant, impossible de dire à la fin ce qui s'est vraiment passé, s'il y a eu effectivement une bavure ou non. Alors évidemment, il va y avoir une enquête confiée à ce qui s'appelle en Espagne le Bureau des Affaires Internes.
Excusez-moi, je ne sais pas si vous avez pu voir ou lire quelque chose sur l'expulsion de ce matin.
Ouais.
Oui.
On nous a confié le dossier, ils veulent qu'on enquête pour savoir si les agents ont agi de manière proportionnée ou s'il y a eu des débordements tant aujourd'hui que dans les antécédents des agents.
Pardon, mais c'est pas une affaire disciplinaire ?
Si, absolument, mais ça prendrait des mois. Et si finalement ils sont jugés coupables, ils ne prendront qu'une tape sur les doigts. Mais de nos jours, c'est plus suffisant. Moi, je dirais que c'est une bonne nouvelle.
Mais moi, tout ce que je vois, c'est qu'une seule équipe anti-émeute est allée faire un boulot qui demande normalement l'intervention de deux fourgons au moins.
Moreno, un homme est mort.
Ça relève pas de notre service, Diana. C'est pour la commission disciplinaire.
Les violences policières gratuites ne relèvent pas de notre service.
C'est de la politique.
Dis-moi ce qui n'est pas politique.
Tout est très politique, toujours. Et donc dans cette série aussi, je ne veux pas vous dévoiler l'intrigue, mais rapidement, on va comprendre qu'il ne s'agit pas d'une simple bavure et la série va virer à la critique du système politique espagnol dans son ensemble. Alors moi, ce que j'ai adoré avec Antidisturbios, c'est vraiment la mise en scène absolument extraordinaire. Donc la scène d'évacuation dont j'ai parlé, elle nous embarque complètement avec les policiers, mais il y a une autre opération qui est filmée plus tard dans la série. C'est assez drôle d'ailleurs parce qu'il s'agit de sécuriser un rassemblement de supporters de l'Olympique de Marseille qui viennent à
c'est
Madrid
toujours
pour voir un match.
C'est pas normal. Hein. Oh là là.
Et en fait, là, c'est filmé très différemment. C'est-à-dire que c'est filmé de loin, en plan large, fixe, et ça va nous mettre à distance, beaucoup plus à distance que la première scène. Et ça nous encourage, nous, à être beaucoup plus critiques vis-à-vis des forces de l'ordre. En fait, c'est une série qui montre vraiment à quel point la mise en scène, c'est un langage. Et le réalisateur va vous dire quelque chose de très différent selon les plans qu'il choisit, les mouvements de caméra qu'il choisit. Et il se trouve que le réalisateur de cette série s'appelle Rodrigo Sorogoyen. Je suis une vraie groupie. J'adore ce mec. J'ai adoré tous ses films. Donc, il a sorti 3 films récemment en France. Que Dieu nous pardonne, El Reino, Madre, cet été. Ils sont tous les trois fantastiques. Je vous les conseille tous. Donc, j'ai aussi adoré cette série. Ouais. Et vraiment, ce que j'aime, c'est qu'il y ait la même exigence formelle pour une série et pour le cinéma.
Vous aviez entendu parler de cette série, Emmanuel
Taïeb ? Non, je suis très content de la découvrir. Je suis très content, Margot, que vous insistiez sur la question de la réalisation.
Ouais.
Parce que dans les séries, on parle beaucoup des scénaristes, on parle beaucoup des showrunners. Il y a plein de très bons réalisateurs, certains venus du cinéma, d'autres qui sont natifs, on va dire, des séries. Et oui, effectivement, c'est aussi un langage de cinéma. De mon point de vue, c'est même transféré dans les séries aujourd'hui à tous les points de vue.
Alors, moi, j'ai regardé que le premier épisode et vraiment, j'ai été bouleversée parce que cette scène de l'évacuation, elle est absolument incroyable. Et vraiment, je vous rejoins, Margot, ça tient énormément à la réalisation. Difficile de ne pas penser à l'actualité. Pour être totalement honnête avec vous, j'ai regardé ce premier épisode le soir où il y avait l'évacuation de la place de la République. Donc forcément, ça fait écho et on se dit encore une fois que les séries, elles racontent aussi cette part de la société. Et c'est extrêmement intéressant. Et je me suis d'ailleurs demandé si les scénaristes français oseraient s'emparer de ce sujet. Je ne dis pas simplement au détour d'une scène, mais comme sujet principal
oui, d'en faire
de
effectivement
la série.
Une fiction, on attend de voir.
Voilà, on attend de voir, mais je pense qu'on n'est pas forcément encore là, comme on a du mal à s'emparer du pouvoir politique. Hein, à part Baron Noir, c'est vrai qu'on a du mal à évoquer la politique dans une série française et les finances
et
aussi.
Et les finances, c'est la question financière.
C'est très étrange.
C'est pas encore le cas.
Ouais.
Il y a une timidité et je pense que l'image très négative de la finance fait que les scénaristes savent peut-être pas trop comment y aller encore aujourd'hui.
Je peux le comprendre en même temps, hein, on est d'accord. Hein, voilà. Le milieu économique est quand même assez étrange. Voilà. De mon côté, alors, beaucoup plus simple, je me suis mis dans ma position guimauve, dans une atmosphère quelque peu anxiogène. J'avais envie d'une série doudou, j'appelle ça les séries chocobons, Emmanuel. C'est-à-dire, quand je dis chocobons, c'est que c'est les séries un peu sucrées qui pourraient être écœurantes, mais qui ne le sont pas, qui nous font plaisir. On a du mal à s'en passer. Voilà. Alors, ça s'appelle Love and Anarchy, c'est sur Netflix et c'est une série suédoise. Alors, déjà, pareil, c'est comme Exit qui se déroule en Norvège. Je ne sais pas que j'ai une
vous aviez besoin d'exotisme.
D'exotisme, voilà. Alors, pas de froid forcément, mais d'exotisme en tout cas. Vous allez découvrir Sophie, c'est une mère de famille plutôt bourgeoise qui adore se masturber. Alors pardon, mais c'est tout le début de la série, donc il faut quand même le dire. Et qui va décrocher une mission dans une maison d'édition. Et parmi les salariés, il y a un certain Max, c'est un jeune ingénieur qui est très malin. Un jeu de séduction va se mettre en place entre ces deux-là à coup de défis mutuels. Alors les défis sont très... comment dit-on ? Un peu couillon, quoi. Notamment celui-là qui attend Sophie. Écoutez bien, c'est assez déstabilisant.
Quand les portes s'ouvrent, sors de l'ascenseur à reculons. Et marche à reculons toute la journée.
Sophie, tout va bien ? Ça va ?
Oui, bien sûr, tout va bien. J'ai un petit souci au talon, mais ça va aller. Il me fait des petites misères. M'a donné des restrictions concernant ma façon de me déplacer. Je devrais peut-être arrêter les talons aiguilles.
Alors, cette scène-là se déroule en pleine réunion du conseil d'administration de la maison d'édition. Essayez de marcher à reculons, j'ai tenté, parce que pour voir si c'était vraiment réel dans la série, c'était compliqué. C'est vraiment pénible, au bout d'un moment, vous en avez marre, quoi. Et elle fait ça toute la journée. Ce jeu entre eux est vraiment mais jubilatoire. La séduction se met en place lentement, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça va vraiment bousculer les deux personnages dans leurs convictions, dans leur quotidien. C'est à la fois drôle, c'est tendre, mais c'est aussi intelligent, parce que derrière ce côté un peu guimauve de la série sont abordés d'autres sujets, comme celui de la création. Parce qu'on est dans une maison d'édition. Et cette éternelle question, vous savez la fameuse question, faut-il distinguer l'artiste de l'homme ? Il y a toute une scène, tout un épisode là-dessus. Il est question aussi de harcèlement, de troubles mentaux. C'est 8 épisodes de 30 minutes qui sont à voir sur Netflix. Et franchement, ça fait du bien. Voilà, c'était ma série Doudou Chocobon. Voilà. Emmanuel Taïeb, je vous ai demandé votre coup de cœur en préparant cette émission. Et quelle n'a pas été ma surprise quand vous m'avez parlé de ça ? Qu'est-ce que c'est que cette série ?
Star Trek 1966.
Mais oui, mais vous me propulsez dans un univers que je ne connais absolument pas. Pourquoi vous aimez cette série de science-fiction ?
Parce que c'est un univers moins impitoyable quand même que Dallas. C'est l'exploration spatiale. Non, Star Trek, c'est la mère de toutes les séries. Voilà, il y a tout. tout s'invente avec Star Trek, et en tout cas à cette époque-là de la télévision américaine. Il y a un vrai showrunner qui porte un propos, qui s'appelle Gene Roddenberry. Il y a une série extraordinaire où on visite l'univers en pyjama. C'est une série qui s'arrête très vite parce qu'elle est jugée trop cérébrale, et donc il va y avoir un mouvement de fans. Donc on a déjà toutes ces mobilisations de fans qui apparaissent depuis très longtemps et qui vont permettre de relancer la série sous la forme d'un dessin animé. Ensuite, elle va revenir. Donc il y a ce qu'on appelle des séries dérivées, des spin-offs, il y en a plein jusqu'à aujourd'hui. Hein. On peut regarder Star Trek Discovery sur Netflix, on peut regarder un spin-off qui s'appelle Picard sur Amazon.
Vous les avez tous regardés ?
Moi j'ai quasiment tout vu, ouais, quasiment tout vu
depuis
très longtemps.
Mais vous regardez aujourd'hui les épisodes de 1966 ?
Je les re-regarde de temps en temps, mais je les connais bien, donc ça va. Mais c'est un univers foisonnant, il y a plein de personnages, il y a plein de dilemmes moraux. Deep Space Nine, qui est une des séries dérivées, ça parle de l'ONU, ça parle des relations diplomatiques. C'est une série très humaniste, comment devenir humain. Et voilà, que c'est quoi avoir des valeurs morales et les porter une fois qu'on aura commencé à visiter l'espace.
Alors, deux questions. Est-ce que ces spin-offs, d'abord, ont la même qualité que la série originelle ? Pour vous ?
Pas tous. Il y en a certains qui sont de très grande qualité. Je trouve que Voyager et Star Trek Deep Space Nine sont de très bonne qualité. Les autres, je suis un peu moins convaincu, mais on a des choses de très très bon niveau. The Next Generation, qui est la série qui a été relancée dans les années 80, c'est très très bon. Pas tous, c'est des grosses saisons avec des 24 épisodes. On faisait comme ça à l'époque, donc c'est un peu inégal. Les épisodes très bons sont vraiment très très bons. C'est de la bonne science-fiction.
Combien d'heures vous avez passé devant vos écrans pour découvrir tout cet univers-là ?
À l'époque, je faisais du binge, je ne savais même pas que ça s'appelait comme ça. Beaucoup d'heures, mais c'est intéressant et c'est important. Ça me permet de vous en parler et d'essayer de donner envie aux auditeurs, mais aux spectateurs aussi. Mais c'est des séries qui sont très importantes dans la culture populaire américaine. Ça a vraiment infusé. Il n'y a pas un épisode de The Big Bang Theory où il n'y a pas une référence à Star Trek. Il y a des livres entiers qui ont été publiés, comment manager une équipe avec Star Trek, comment bien faire sa vie avec Star Trek. Donc, on est au-delà de la série, on est dans le phénomène de société, et vraiment ça a infusé, ça a même, de mon point de vue, donné naissance en partie à ce qu'on appelle la pop culture.
Est-ce que vous enseignez Star Trek à vos étudiants de sciences politiques ?
J'en parle un peu, je parle d'Harry Potter, j'essaie de mobiliser les séries comme outils pédagogiques, et l'élévation actuelle du niveau des séries en fait vraiment des outils pédagogiques principaux. Ouais.
Alors là, mais merci infiniment, c'était le mot de la fin, mais comme je l'aime ce mot de la fin, Emmanuel Taïeb, merci infiniment
merci
pour ce coup de cœur, pour votre avis éclairé aussi sur toutes les séries qu'on a abordées. Merci Margot pour tous ses conseils. Je vous recommande de lire les ouvrages et articles d'Emmanuel Taïeb et son dernier livre « Série politique, le pouvoir entre vérité et fiction ». C'est chez Debouc et c'est absolument passionnant. Comme chaque semaine, je vous quitte avec une réplique tirée d'une série culte. En l'occurrence, c'est Kaamelott cette semaine et cette phrase qui est prononcée par Ropars. « Commencez pas à noyer la peau de l'ours avant d'avoir vendu le poisson ». Dans le prochain épisode de Série Land, je vous propose un grand entretien avec un homme formidable, Patrice Giraud. Il est auteur, producteur de films et d'expositions. Il est un des meilleurs spécialistes de Star Wars, dans lequel il a eu la chance d'être figurant. Il viendra nous parler de cet univers et surtout de la série The Mandalorian à découvrir sur Disney+. Série Land est un podcast Europe 1 Studio produit par La Patronne, Adèle Ponticelli, réalisé par Christophe Pierrot et préparé avec mes traders sérivores Clémence Olivier, Margot Barallon, Magali Buteau et Tristan Barraud. Si cet épisode vous a plu, le prochain devrait vous séduire, restez à l'écoute et puis surtout parlez-en autour de vous, commentez, faites-nous part de vos retours, de vos séries préférées, vous pouvez même nous attribuer des étoiles sur les plateformes de podcast et plus vous nous étoilez et plus nous sommes heureux. Le groupe Facebook de Série Land est là aussi, pour vous. Attention, dans Série Land, vous le savez, il y a une règle, pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça, on ne se quittera plus.